Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounel.
Bonjour à tous, je reçois Florence Blondon, que certains connaissent déjà puisqu'elle a été pasteur du centre-ville de Montpellier au début des années 2000. Alors, le thème d'aujourd'hui est la prière, communication ou dialogue de sourds, avec un point d'interrogation. Ce titre est volontairement provocateur. Il souligne la difficulté peut-être de parler de la prière, qui est un dialogue entre deux personnes, mais dont une, on ne peut jamais être sûr de sa réponse. Voilà, alors Florence, bonjour.
Bonjour Yolande.
Je vous ai demandé de traiter ce sujet pour deux raisons. D'abord, votre passé à l'Armée du Salut, où la prière a une très grande importance. Et puis ensuite, parce que quand on en a parlé, vous m'avez dit « je ne suis pas la plus qualifiée pour parler de la prière ». Alors j'ai trouvé que c'était sympa parce que vous avez ajouté en disant « je suis incapable de faire une leçon sur la prière ». Alors pas de leçon sur la prière, mais peut-être une émission. Donc ça m'a convaincu. Alors première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que jeune salutiste ?
Oui. Alors même si j'ai beaucoup aimé l'Armée du Salut, j'avoue que la prière... Ça m'a presque dégoûté de la prière, je dois dire. D'abord parce que, alors très très jeune enfant, j'ai un souvenir d'une prière avant le repas d'un officier de l'Armée du Salut, ça n'en finissait pas. Je devais avoir 3-4 ans, j'ai pratiquement aucun souvenir de cette période-là de ma vie, mais alors ça je m'en souviens très très bien. Donc déjà j'avais trouvé que la prière c'était pas très rigolo quoi.
Oui.
Bon ça mais j'aurais pu passer au-delà. Mais après pendant les cultes de l'Armée du Salut, il y avait des temps de prière libres qui duraient très longtemps. Et puis où on se sentait presque obligé de prier. Voilà. Peut-être pas tous les dimanches, mais quand ça faisait 2-3 dimanches qu'on n'avait pas prié, on sentait qu'il y avait quelque chose. Fallait prier. Alors déjà, il y avait des gens assez exaltés qui priaient très longtemps. Et puis moi, en réalité, je n'avais pas envie de prier. Je n'avais pas envie de prier en public. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas quoi faire. C'était une violence quand même pour moi. Et du coup, j'étais quand même très, très... J'étais marquée par ça. Et je ne peux pas dire que j'ai eu une relation très sereine avec la prière. Parce que vous me direz qu'on peut différencier la prière publique et commune de la prière personnelle, mais je pense que j'ai tout envoyé balader à un moment donné.
Oui, parce que cette prière publique, il y a un aspect effectivement de se montrer, de montrer ses sentiments, de montrer... C'est pas facile quand on est ado ou simplement quand on a de la pudeur. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre la prière... Moi, je n'ai jamais vécu la prière publique, donc je ne sais pas comment la différencier de la prière personnelle.
Alors... C'est complexe, mais c'est vrai que ces expériences de prière publique pratiquement obligatoires avec une certaine forme de culpabilité. Du coup, si t'as pas prié, c'est parce que t'es pas une bonne chrétienne. Enfin, il y avait tout ça. Heureusement, il y avait d'autres choses à l'Armée du Salut. Hein.
Je me doute.
Mais disons que ce côté-là m'a profondément marqué de manière un peu négative, je dois dire.
Et vous pouviez en parler ?
On pouvait en parler, oui.
Oui.
Mais c'est peut-être ça qui m'a sauvée, entre guillemets, ouais. Qui fait que des années plus tard, oui, on pouvait en parler. Et on avait aussi des réunions de prière. Alors là, c'était presque plus facile parce qu'on n'était pas très nombreux et c'était plus silencieux. C'était plus méditatif, en fait. Moi, ce qui me gênait peut-être, c'est le côté se montrer
théâtral,
alors que je me retrouvais dans les réunions de prière plus méditatives, où là, même si je priais pas, j'entendais ce que disaient les autres. Il se passait quelque chose pour moi, là. C'était très différent. Mais alors, la prière pendant le culte, non,
oui,
pas du tout.
Oui, ce qui me gêne beaucoup là-dedans, c'est la culpabilité, le fait de se sentir coupable parce qu'on n'est pas capable de prier en public.
Voilà.
Et il n'y avait pas moyen de dialoguer, il n'y avait pas... Enfin, dialoguer, oui, vous venez de le dire, mais d'exprimer cette gêne de cette culpabilité.
Bon, pas trop, en fait, non, parce qu'on n'en rediscutait pas. C'était comme ça, ça faisait partie des choses qu'il fallait, une espèce d'obligation de prier. Et pour moi, la prière, c'est tout sauf une obligation.
Oui, bien sûr. Et vous n'avez pas rencontré d'autres personnes qui vous ont fait...
Certainement, mais bien après.
Ah oui, après.
Voilà, j'ai quand même gardé beaucoup d'amis à l'armée du salut, et quand on en discute, on a pratiquement tous eu cette même expérience.
Et ça a changé, d'après ce que vous savez
Je pense que ça a changé. Après, c'est très culturel aussi, hein. Faut reconnaître... Peut-être que j'étais plus, sans le savoir, dans la culture luthéro-réformée. C'est vrai qu'aujourd'hui, à l'Armée du Salut, il y a énormément d'Africains. Et que c'est dans leur culture, il y a un côté naturel.
Oui.
Et c'est beaucoup moins... Enfin, moi, ça ne me gêne pas quand je vais à une réunion de l'Armée du Salut, un culte de l'Armée du Salut, et qu'il y a ces temps-là, parce que il y a une part de vérité, de sincérité là-dedans. Mmh. Et moi, ce qui me gênait, c'est que je me sentais pas du tout sincère quand je faisais ça.
Oui, oui. Voilà. En position d'acteur, en fait, d'une certaine façon. Et alors, ce qui m'a plu, donc, je viens de le dire, ce qui m'a plu, c'est le fait de dire « je suis incapable de faire une leçon sur la prière ». Or, dans l'Église, j'ai jamais rencontré de manuel de prière. Il y en a peut-être, je ne sais pas, vous allez nous le dire. Mais par contre, j'ai rencontré des recueils de prières. Il y avait des prières calvinistes. J'avais trouvé ça une fois. Il y a les prières du soir, prières du matin. Il y en a dans certaines Bibles, dans certains recueils de chants. Comment distinguer, et bon, ça, je suppose que vous n'êtes pas contre, mais comment distinguer une leçon d'un manuel de prière, par exemple?
Ah, en tout cas, il y a des manuels de prière, je ne sais pas trop. Il y a des livres qui ont été écrits, et des livres, et des livres, et des livres qui ont été écrits, oui, sur la prière. Et puis tous les théologiens ont écrit des pages, voire des chapitres sur la prière. Et pour être plus proche de nous, vous prenez n'importe quel catéchisme protestant, il y a toujours une leçon sur la prière.
Ah oui?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qu'on dit dans ces leçons sur la prière? J'ai pas dû être assez attentive parce que j'ai rien retenu. J'entends au culte des prières, des belles prières. Parfois, je lis dans le CEP, dans des tas de journaux, des prières. Mais des leçons sur les prières, comment prier? Oui. Alors, je dis que je voulais pas.
En fait, les leçons sur la prière sont toujours très variées. Il y en a, oui, certaines qui expliquent comment prier. Il y a ceux qui nous expliquent. Il y a la prière il y a la prière pour remercier.
Ah,
il y a,
oui,
la prière pour louer.
Ça, on le verra voilà, à la fin.
Les leçons tournent autour de ça. Et donc, explique un peu ça. Enfin, mais en tout cas, quand je dis que je suis incapable de faire une leçon sur la prière, je pense qu'on est tous incapables. Je pense que la prière, c'est quelque chose de très personnel.
Oui.
Et c'est une expérience à vivre.
Oui.
Et faire une leçon sur une expérience à vivre, à mon avis, c'est très compliqué. Alors après, on peut donner des trucs, des tips, des machins. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je dois dire que beaucoup de gens que je rencontre cèdent des leçons sur la méditation. Vous savez, petit
oui,
bambou,
oui, oui, oui.
Ben, par exemple, qui nous aide à entrer en méditation, bah, c'est pas si mal pour apprendre à prier, quelque part. Parce que la prière et la méditation, on n'est pas très loin. Hein. Alors, petit bambou, ça faut être bien, faut machin, bidule, enfin bon.
Mais la méditation, on le fait par rapport à soi, je crois.
Bah, voilà. Mais voilà. Je veux dire, mais pour prier, à mon avis, faut être... Faut quand même prendre du recul et se mettre un peu à l'écart. Bon, je parle de la prière personnelle.
Oui,
hein.
Oui, oui, oui.
Prendre du recul et se mettre un peu à l'écart de sa vie, en fait, du monde et de sa vie. Donc, en fait, le fait, comme le propose la méditation, de s'installer bien, confortablement, de prendre un temps bien précis,
oui,
moi, ça m'a beaucoup aidée.
Oui.
Bon, j'ai découvert la méditation après, donc, mais ça m'a beaucoup aidée. C'est-à-dire, par exemple, moi, je ne suis pas du matin. On m'avait toujours dit, oh, le matin, tu te lèves, tu ouvres ta Bible et tu pries. Bon, moi, le matin, je me lève, surtout quand j'avais les enfants.
Oui,
je suis à l'arrache pour les amener à l'école.
Oui, oui,
déjà, je n'arrive pas à me brosser les dents. Alors,
oui,
j'allais pas me lever une demi-heure plus tôt parce que de toute façon...
Non,
le matin, ce n'est pas pour moi.
Mais
par contre, le soir, je suis bien.
Oui.
J'aime bien, je suis du soir. J'arrive à trouver un temps. pour moi, pour prier, je me mets à part. Au début, ça fait rigoler certains de mes amis protestants très réformés. Oui. J'allumais une bougie, sacrilège.
Ah, oui, bah, pourquoi pas, pourquoi pas.
C'était mon truc, voilà. Oui.
La prière, enfin, donner une leçon sur la prière personnelle. Moi, ça me fait un peu bizarre parce que j'ai l'impression que c'est comme si on me disait comment je dois parler à mon compagnon quand on est dans notre intimité. Or, c'est quand même très personnel. Je ne vais pas raconter ce qu'on se dit dans l'intimité. La prière, c'est quand même un peu ça.
La prière, c'est ça, c'est très intime. C'est pour ça qu'on a beaucoup du mal à en parler.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'il y a des prières pendant le culte. Et d'ailleurs, c'est étonnant parce que quand j'ai découvert le culte protestant, le culte réformé protestant, je me souviens qu'un soir, à une étude biblique, j'étais avec le pasteur. Pasteur super, allez. Et je lui dis, je trouve étonnant, on ne prie pas pendant les cultes à l'église réformée. Il me dit, comment ça, on ne prie pas? T'arrives, il y a la louange.
Oui.
C'est une prière.
Bah oui.
Après, il y a la confession du péché.
Oui.
C'est une prière.
Bien sûr.
Voilà.
Ça n'arrête pas.
Mais comme c'était des prières, pour moi, un peu convenues, c'est-à-dire que c'est des textes qui sont lus, la liturgie, j'y entendais pas. Et alors là, du coup, ça m'a débloqué. Je me suis dit, mais c'est des prières, et même des belles prières.
Oui.
Et enfin, je trouvais des mots qui n'étaient pas les miens, mais pour prier. Et ça m'a beaucoup aidée parce que je ne trouvais pas les mots pour prier.
Oui, surtout que dans l'Église protestante, on a fait beaucoup d'efforts sur la théologie, sur la liturgie.
Oui.
Et avant, c'était la liturgie toujours la même. Ça avait un côté messe en latin assez casse-pied, il faut dire.
Oui.
Enfin, personnellement. Mais maintenant, c'est vrai qu'on va trouver des choses très poétiques.
Il y a des très beaux textes. Oui. Alors après, moi, je vous rejoins. Hein. Moi, j'aime bien ce qui est poétique et tout. Il faut faire attention, il y a des gens qui ne sont pas du tout sensibles. Qui sont pas du tout sensibles à la poésie. Donc, c'est vrai qu'au cours d'un culte, bon, après, on a chacun sa sensibilité. Moi, j'aime bien la poésie. Les gens le savent. Mais bon, de temps en temps, c'est bien aussi de mettre un texte bien connu. Même, moi, des fois, ça m'amuse. Je lis encore la confession du péché de Calvin, qui est quand même assez épouvantable. D'un autre côté, ça fait réagir les gens.
Oui,
et c'est bien.
C'est pas mal.
Voilà.
C'est pas mal. Bon, alors, on va écouter quelque chose qui fera peut-être réagir les gens. Votre morceau de musique, donc, By the River of Babylon de Boney M.
Et je vous dirai après pourquoi.
Voilà, d'accord. By the rivers of Babylon, there we Florence, alors on revient sur votre expérience personnelle, sur la prière. Alors d'abord, oui, le Boniem, alors By the River of Babylon.
Oui, c'est pas que j'aime, enfin, j'aime bien Boniem quand même, bon voilà, ça me rappelle ma jeunesse, puis ça danse bien. Mais en réalité, cette chanson est un psaume. Et les psaumes, c'est quand même quelque chose de très, très important pour moi. Et quand je dis je ne peux pas faire de leçons sur la prière, je pourrais faire des leçons, enfin, je pourrais faire plein de choses sur le dire plein de choses sur les psaumes. Et j'ai découvert dans les psaumes quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on peut tout dire à Dieu. Mais absolument tout. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, il n'y a pas de leçon sur la prière. Moi, quand j'étais petite, on m'a prié la louange, il faut dire merci. Après, on peut demander, après ceci, après cela. Et puis, j'ai découvert dans les psaumes qu'on pouvait aussi se plaindre, qu'on pouvait dire des choses épouvantables, dire vraiment des ressentis de meurtre. Et ce psaume 137 qui, By the River of Babylon, qui commence comme ça, auprès des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions. Bah, c'est dit déjà quelque chose de fort, c'est-à-dire de dire ça, son désespoir. De dire à Dieu quelque part.
Il faut préciser que c'est lors de l'exil des Juifs à Babylone.
C'est l'exil des Juifs à Babylone. Ils sont loin de Jérusalem et ils disent on est triste, ça ne va pas du tout. Presque à la limite, dans d'autres psaumes, il va dire tu nous as laissé tomber. Quand le Christ crie en croix mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est le psaume 22. Et puis là, dans ce psaume 137, il se termine de manière épouvantable, puisqu'il se termine en disant « Fille de Babylone, qui va être dévastée ?» Donc ça annonce la destruction de Babylone, qui va certes arriver, mais bon. « Heureux qui te rend la pareille, le mal que tu nous as fait, c'est tout à fait contraire à tout ce que j'ai appris dans l'Évangile. » Et ça se termine « Heureux qui saisit tes enfants et les écrase sur le roc. » Alors là, en général, on prêche pas trop là-dessus.
Non.
Voilà. Mais moi, quelque part, ça m'a libérée. Ça m'a libérée parce que je me suis dit « Celui qui prie là, il se monte en vérité devant Dieu. » Il dit tout ce qu'il a sur le cœur. Et peut-être que le fait de le donner à Dieu, de le remettre à Dieu, eh bien, ça nous empêche de passer à l'acte. Dire, voilà, j'ai envie de ça. Mais finalement, je te le dis. Et débrouille-toi avec ça. Il y a quelque chose de dire devant Dieu, on peut se présenter tel qu'on est, avec nos désirs les plus épouvantables. On en a tous, par moments, des désirs de meurtre, des désirs absolument horribles, je pense. Et le fait de les exprimer et de faire confiance à Dieu, de les remettre à Dieu, parce que c'est ça en fait ce qui se passe, c'est une prière.
Oui, c'est
et la dans la prière, on peut dire des choses vraiment épouvantables.
C'est la première fois que j'entends qu'on parle de ce verset qu'on tait soigneusement, on n'en parle jamais, vous avez raison de le dire. Et quand j'en ai entendu parler, c'était pour dire ça ne devrait pas être dans la Bible cette chose.
Bah oui.
Vous dites si.
Eh ben moi je dis ça. Moi souvent on me dit ça devrait pas être dans. Mais si. C'est là parce que ça nous montre que finalement on est pleinement humain. Et ça. Je veux dire, le psaume c'est vraiment une leçon d'humanité. Et c'est un texte profondément anthropologique où on va dire toutes nos émotions. Évidemment, la joie, la louange, ça, on le sait.
C'est facile.
C'est facile. Enfin, c'est facile.
Oui.
Bon, ouais. Enfin,
oui.
On le comprend, en tout cas.
Oui.
Voilà,
oui,
c'est
oui,
facile.
Oui.
Mais en réalité, c'est un vrai chemin qui nous permet de passer du cri à la louange. C'est-à-dire que ce chemin, d'abord le psaume suivant reprend « Je te célèbre de tout mon
oui.
cœur ». Voilà, je pense qu'il faut
voir
mieux, la suite.
Là.
Ça va mieux, ça se termine sur ces psaumes « Alléluia, je loue le Seigneur, très bien ». Mais je veux dire, je pense que ce passage, travail, c'est une sorte de travail d'introspection, il y a ça dans la prière.
Oui.
Et donc...
J'aurais appris quelque chose sur la prière aujourd'hui.
Ouais,
merci beaucoup. Alors, vous avez dit que vous avez rencontré une sœur Myriam qui vous a dit « Moi aussi, j'ai du mal à prier » et vous ajoutez « Elle, la pro de la prière hein, » avec un point d'exclamation. Alors, qui est sœur Myriam d'abord ? Pourquoi vous lui avez demandé conseil ? Et qu'est-ce que c'est qu'une pro de la prière ?
Sœur Myriam était la prieure des diaconesses il y a une vingtaine d'années, je pense.
Ouais.
Elle a été, c'est quand même une figure qui a été très importante. Elle a écrit d'ailleurs un très joli recueil de prières. La règle des diaconesses, enfin bon.
Expliquez un petit peu les diaconesses.
Alors les diaconesses, c'est un tiers ordre protestant. Oui. De sœurs,
oui.
En fait, qui sont, bah, comme leur nom l'indique, les diaconesses, elles sont très tournées vers l'entraide, mais elles ont quand même une vie de prière, de ouais. recueillement. Elles vivent entre elles, bon, accueillant plein de monde, hein, je dirais, elles ne sont pas hors du monde, mais en même temps, il y a cette vie de prière.
Et donc, ça devrait être une
ah bah, c'est
pro
quand même
de la prière.
Pour moi, c'était une pro de la prière.
Donc, vous êtes allé lui demander conseil et elle vous a dit qu'elle avait du mal à prier. Et ça vous a débloqué.
Bah, en fait, je ne sais pas, c'est tout à fait... Oui, voilà. J'ai fait une retraite chez les diaconesses.
Ouais.
Et au moment de faire la vaisselle, parce que c'est toujours là que ça se passe,
oui.
Pendant les repas, on ne parle pas. Donc,
oui, après, quand chez on les sœurs protestantes, oui, c'est
voilà.
une constante.
Bon, chez les catholiques, non plus, on ne parle pas.
Oui, j'ai moins d'expérience.
On ne parle pas. Bon. De toute façon. Et donc, au moment de la vaisselle et tout, je sais pas d'un seul coup, je ne sais pas comment c'est à arriver, et d'un seul coup, j'entends Sœur Myriam qui dit oh ben moi aussi, je n'arrive pas toujours à prier, j'ai du mal à prier. Je me suis dit mais elle est pro quand même, normalement, d'avoir une vie de prière et tout. Ben, je me suis aperçue que ça n'existe pas, les pros de la prière. Et que la prière, ça peut être facile, mais ça peut être aussi un combat. De prier.
Et mais c'est comme le dialogue, tomber. C'est comme le dialogue aussi dans un couple.
Oui,
parfois,
oui, oui.
C'est un combat. C'est un combat de garder le contact, de savoir quoi se dire. Surtout quand on a passé un certain temps ensemble, on n'a pas toujours des choses à dire.
Bah surtout là, comme vous le disiez, la réponse n'est pas toujours immédiate. Hein.
Non.
Voilà, ça se passe pas tout. Enfin, c'est très compliqué parce que voilà, j'ai. Il faut déjà trouver le dialogue.
Mais heureusement, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la prière. Vous me dites, ce qui vous a aidé, c'est la constatation que la prière n'est qu'une des manières dont on rentre en relation avec Dieu.
Oui.
Alors, là, vous citez la lecture de la Bible, la rencontre de l'autre, la vie, etc. C'est-à-dire que la prière, il n'y a pas que ça. Heureusement, dans la rencontre avec Dieu.
Oui, je pense que chacun a une expérience différente. Il y a des gens qui sont beaucoup tournés vers la prière. J'ai des collègues qui sont très tournés vers la prière. Et puis, j'avais un collègue qui disait que lui ne priait jamais. Donc, comme quoi. Ah. Et je n'aimais aucun jugement là-dessus. Je pense que il est tout à fait chrétien et tout. Et personnellement, c'est probablement pas la première qui est la première, mon premier vecteur qui me permet d'entrer en relation avec Dieu. Et c'est certainement plus. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si j'ai cité les psaumes. C'est-à-dire que quand je sais plus quoi prier, je lis des psaumes.
Oui.
Voilà. Et bon, qui sont des prières. Hein.
Oui,
et,
oui, oui.
Et donc, moi, personnellement, c'est plus la lecture et les. Et de la Bible qui m'apporte des choses qui me rejoignent dans mon existence, qui me parlent. C'est-à-dire que je parle plus avec Dieu en lisant la Bible, mais c'est aussi une manière priante de lire la Bible, hein, qu'en priant, en mettant dans mon coin et en disant « Mon Dieu », voilà, je ne sais pas quoi dire, en fait.
Oui, bah, c'est un petit peu l'expérience que... Bon, l'expérience personnelle, mais aussi l'expérience d'une personne qui vient de rejoindre le protestantisme à plus de 60 ans, et qui me disait la même chose, qui me disait « moi, je la prière », mais heureusement, j'ai entendu sur YouTube un pasteur qui disait qu'il ne priait jamais. Alors, c'est peut-être le même, j'en sais rien. Ou alors, il y a une épidémie chez les pasteurs, des pasteurs qui ne prient jamais.
C'est peut-être le même, je ne citerai pas son nom.
D'accord. Mais voilà, alors, il se livre plus sur YouTube que
peut-être,
sur les paroisses.
Peut-être, je ne sais pas si c'est...
Mais voilà. Et donc, finalement, c'est consolant. Ce que vous dites, qu'on peut rencontrer Dieu d'une autre façon que de prier, parce que les gens, si on les oblige à prier, eh ben, ils ne savent pas comment, et puis ça les dégoûte, ou alors ils se disent « je ne suis pas capable, peut-être que je n'ai pas assez la foi ». Or, c'est pas la même chose, la foi.
Non, c'est pas la même chose du tout. C'est pour ça que je pense que c'est à chacun de faire sa propre expérience. Et puis dans notre existence, il y a des moments où on a besoin de prier. Il y a même des moments où j'ai besoin de prier avec d'autres. Et puis il y a des moments où finalement, C'est pas forcément d'ailleurs quand ça va mal ou quand ça va bien.
Oui.
C'est des moments dans l'existence comme ça où la prière m'apaise. Même si j'ai l'impression d'être en paix, il y a une dimension d'apaisement dans la prière quand même. Il y a une dimension de prendre son temps. On est quand même dans un monde où on ne prend pas beaucoup son temps. De prendre du recul par rapport à tout ça. Et c'est pour ça, je pense que c'est quand même important de prier. Tout à l'heure, j'ai laissé un combat. Bah oui, comme dit Sœur Myriam, pas toujours facile. Bah, y a des moments, faut se forcer un peu pour prier. Parce que je pense qu'il y a quelque chose de bénéfique dans la prière.
Eh ben, on va voir les différents types de prières. Après une seconde de pause musicale, alors là, c'est moi qui ai choisi. Et j'ai choisi, pour une fois, quelque chose de religieux. Bah, c'est The Lord's Prayer de Hillsong Worship. Alors c'est un, c'est la prière de Dieu, c'est le Notre Père en fait. Voilà. Et donc, eh bien, on va écouter ce morceau et on se retrouve après. Father in heaven, holy is your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, lead us not into temptation, but God deliver us from the enemy. Yours is the kingdom. Vous dites que la prière dit beaucoup de notre relation avec Dieu. On a vu l'importance des psaumes, on peut en reparler, mais c'est la louange principalement, les psaumes. Mais il y a aussi la colère, vous en avez parlé, il y a beaucoup de choses dans les prières. Alors est-ce qu'on peut, un petit peu, vous avez dit que on n'est pas obligé que c'est pas forcément lié à la joie ou à la tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est que la prière ? On prie pour quoi, en fait ?
On prie pour quoi ? Alors, j'avais un professeur de théologie pratique, Laurent Gagnemin,
ouais.
Qui nous disait, mais je pense que la citation n'était même pas de lui, mais je ne me souviens plus de qui elle est, que prier, c'est exaucer Dieu.
Ah,
c'est joli, hein ?
Oui, c'est joli, il faudrait peut-être un peu expliquer.
Voilà, c'est-à-dire qu'en réalité, je pense que la prière, c'est Dieu qui nous offre ce moment-là. Et parce qu'en réalité, si on réfléchit bien, notre relation avec la prière pose plein de problèmes théologiques.
Ouais.
Voilà. Parce que si Dieu est tout puissant,
oui, il a pas
et
besoin,
tout savant,
voilà.
Bah, de toute façon, il sait ce que je vais dire. Hein.
Exactement.
Donc, je n'ai pas besoin de lui dire. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, est-ce que Dieu est tout puissant? Il faudrait faire une autre émission ou tout savant. Ça, c'est une autre... Mais en tout cas, je pense que...
C'est prévu, tout puissant.
Voilà.
Bon.
Et je pense que Dieu nous offre ça. C'est comme le culte, hein, je veux dire. C'est des moments qu'on met à part dans notre vie.
Ouais.
Et Dieu nous offre. Et Dieu nous offre ces moments-là parce que peut-être que c'est un temps où on va rentrer en relation avec lui. Même s'il sait ce qu'on va dire.
Oui,
j'en
parce
suis
que
pas convaincue.
Voilà,
voilà, il nous laisse quand même une certaine part de liberté. Je suis pas convaincue qu'il sache tout ce qu'on va dire, mais bon, peu importe. En tout cas, il est prêt à nous entendre, il est prêt à nous écouter, à nous répondre. Je sais pas.
Ouais.
Voilà.
Il vous a jamais répondu. Enfin,
si.
Vous,
si. Si, mais pas forcément au moment de la prière.
D'accord.
Voilà. Et puis,
c'est vrai.
Il y a une prière. Des aumôniers de prison dont je me souviens plus les paroles, mais qui dit en gros, je peux le dire de manière un peu pas très poétique, qui dit « je t'ai prié, je t'ai demandé ça, et tu m'as donné ça, c'est tout à fait autre chose, mais finalement c'est toi qui avais raison ». Et je pense que la prière de demande peut nous déplacer dans nos... Parce que ça nous permet d'entendre des réponses, des fois qui sont autres que ce qu'on pense.
Oui.
Mais peut-être que c'est mieux.
Oui, oui,
que
oui.
Fait, des fois, ce qu'on demande,
oui,
c'est
oui,
pas
oui.
Ce qu'il faut.
Oui, oui.
Alors, on dirait, quand on prie pour un enfant malade,
oui.
Ou des choses comme ça, c'est quand même, si la guérison advient pas...
Oui, il y a des gens qui se reprochent de ne pas avoir eu la guérison en disant, dans certains milieux, c'est parce qu'on a mal prié,
voilà.
Qu'on n'a pas assez prié. Et là, il y a une culpabilité
énorme.
Terrible.
Et terrible.
Ouais.
C'est terrible. Et je pense qu'on est humain et qu'il y a la finitude au cœur de notre existence. Et que la finitude, quand on a 95 ans, on peut l'accepter.
Oui.
Mais quand ça concerne un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 10 ans, ou même de 40 ans, c'est souvent inacceptable. Mais la prière ne va pas résoudre tous nos problèmes. La prière, elle n'est pas là pour ça. Elle est là pour nous laisser en relation avec Dieu. Garder la relation malgré tout. Et ça, c'est parfois difficile à comprendre. Et surtout, c'est très culpabilisant quand on dit « c'est un mal prié ». Et j'ai souvenir, moi, d'un de mes oncles, paix à son âme, comme on dit,
ouais.
qui dit à une femme malade, « si t'es malade, c'est parce que t'as mal prié ».
C'est épouvantable,
mais c'est
ça.
C'est épouvantable. Mmh. D'ailleurs, elle l'a envoyé balader, j'ai trouvé ça très sain.
C'est très bien. Oui.
Elle lui a dit, fiche le camp, moi, ma vie, elle a été dévouée pour Dieu, et je suis très heureuse comme ça, et si maintenant je souffre et que je vais mourir, c'est pas parce que je suis mauvaise, c'est pas parce que j'ai mal prié. Voilà. Donc,
j'aime bien votre idée de malgré.
Oui.
D'ailleurs, il y a une prière dans
oui.
C'était dans le recueil de cantiques Nos cœurs te chantent. Ça remonte déjà un certain temps. Une confession.
Oui, il y a une confession
voilà,
de foi en malgré.
Nous croyons en Dieu malgré.
Oui.
Et j'aime beaucoup cette.
Ben moi, je l'aime bien aussi. Certaines personnes, alors c'est toujours pareil, certaines personnes l'entendent de manière négative.
Ouais.
Mais c'est vrai qu'on pourrait aussi un autre jour prier en disant « Je crois en Dieu parce que le monde est merveilleux, les étoiles, le ciel. » Enfin bon, c'est ce que raconte le psaume 8, par exemple.
Oui,
voilà.
Tout à fait.
Donc, mais je pense qu'il faut tenir les deux en même temps.
Ouais.
Et parce que le malgré, il existe, le mal existe. Et donc, toute la question de la prière de demande, par exemple, ne va pas résoudre le problème du mal. Est-ce que je demande à Dieu ? Ça pose un tas de problèmes. Hein. Demander.
Mais la prière de demande, ça serait peut-être plutôt une prière de demander d'avoir la force de supporter et de ne pas rentrer dans le déni, le doute. Enfin, encore que le doute, c'est pas toujours une mauvaise chose. Mais la prière de demande, c'est peut-être une prière de demander d'avoir la force de supporter notre finitude, comme vous disiez.
Oui, alors c'est vrai que c'est très réformé, ça. Je pense que de temps en temps, on peut demander des choses.
Oui.
Je pense qu'on peut aller plus loin. Bon, après...
C'est-à-dire que moi, j'ai été catholique pendant un certain temps, quand j'étais enfant, et j'allais demander d'avoir des bonnes notes ou des choses comme ça. Et bon, alors j'avais des bonnes notes si je travaillais, ce qui n'était pas souvent le cas. Et donc, j'ai un peu cette réticence par rapport à la prière de demande. Est-ce que c'est pas égoïste de demander de réussir ça ou...
Bah, c'est sûr que c'est un peu égoïste, et puis voilà, mais pourquoi moi et pas l'autre ? Pourquoi c'est moi qui ai gagné le match et pas l'autre ? Enfin, mais en fait, je pense que ça rejoint ce que je disais par rapport même aux choses épouvantables qu'on donne à Dieu. C'est-à-dire qu'on se met à nu devant Dieu, puis on lui dit vraiment ce qu'on a envie.
Ouais.
Et puis un jour, on s'aperçoit que la prière, ça ne suffit pas, qu'il ne suffit pas de demander à Dieu d'avoir des bonnes notes, il faut bosser un petit peu. Donc, peut-être que ça aide, la prière.
Une leçon de théologie.
Voilà.
Une leçon de théologie, en tout cas, moi j'ai appris beaucoup de choses sur la prière au cours de cet entretien. J'espère que les auditeurs auront aussi appris beaucoup de choses et ont été éclairés. Je vous remercie beaucoup, Florence, d'avoir accepté, donc, parce que c'est pas évident de parler de la prière, c'est quand même intime, et en même temps vous avez été finalement une pro de la leçon de la prière, et donc je vous remercie. Je remercie nos auditeurs. Je leur dis qu'ils peuvent réagir sur le mail de « Un protestant peut en cacher un autre », même si ce n'est pas cette émission. C'est quand même le mail qui sert un petit peu de contact. Donc, merci de réagir à « Un protestant peut en cacher un autre » @radiofmplus.org. Je remercie également Léonie, notre technicienne, et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Thème et Anathème, une émission proposée par Yolande Gounelle.